Alors, j'ai lu la proposition suivante écrite dans un pamphlet écrit par Madeleine Murray O'Hare, fondatrice de l'Association des athées américains d'Austin au Texas, qui disait ceci. Si vous acceptez que Dieu est un mythe, que l'avenir de l'humanité est entre les mains de l'homme, que la réussite dans la vie dépend de l'effort de l'homme, que l'homme fait partie de la nature dans laquelle il s'est développé, que le but que l'homme s'est mis en tête pour sa vie détermine ce qu'il deviendra, que lorsque vous mourrez, votre vie est terminée et qu'il n'y a plus rien après, que seules vos idées peuvent survivre, que l'homme est responsable pour ce qu'il a fait, que le péché n'existe pas, que les crimes n'ont pas besoin d'être pardonnés, et ainsi de suite, dit-elle. Si c'est ce que vous croyez, alors félicitations, vous faites partie de l'élite intellectuelle qui compose ce monde. C'est une personne qui a aidé le diable à envoyer énormément de personnes en enfer aux États-Unis. Elle a eu 3 enfants, elle en a fait deux qui sont devenus complètement athées. Et il y en a un qui a accepté le Seigneur, qui a été renié par sa mère, renié par ses enfants, par son frère et sa sœur. Et celui qui a accepté le Seigneur a rendu témoignage de la vie cachée de sa mère. Et c'est une abomination devant le trône de la grâce de Dieu. Et les gens qui ne veulent pas accepter le Seigneur, c'est une chose. Mais les gens qui, toute leur vie, crachent dans la face du Seigneur, eh bien, quand vous grattez et vous réussissez à découvrir ce qui se passe dans leur vie privée, eh bien, on comprend pourquoi ils salissent le nom de Dieu. C'est parce qu'ils veulent baigner dans leur péché, se complaisent dans leur péché, et ils ont accepté de mourir et de servir le diable. Et la question est la suivante ce matin. Pouvez-vous être un intellectuel et croire en Dieu? Et ce psaume que nous allons examiner ensemble nous répond par un grand oui. Et je vais vous dire comment vous pouvez connaître Dieu de façon personnelle si dans cette salle ce matin vous êtes un intellectuel. Et mieux que cela, je vais vous dire comment vous pouvez connaître Dieu même si vous n'êtes pas un intellectuel. Alors, chers amis, ne pensez pas que les intellectuels qui sont athées, qu'il n'y a que les intellectuels, qui sont athées. Certains parmi les plus ignorants que j'ai rencontrés avaient été aussi des athées autrefois. De même, ne croyez pas qu'un intellectuel ne peut pas croire en Dieu. Albert Einstein, Louis Pasteur, Winston Churchill, entre autres, et plusieurs autres encore qui ont gagné le prix Nobel de la paix, croyaient en Dieu. Ces gens peuvent être plus intelligents que moi, mais ils ne peuvent pas aimer Jésus comme vous et comme moi, parce que nous lui appartenons, et ça, c'est tellement merveilleux. Parce que la seule chose qui compte par-dessus tout, frères et sœurs, c'est d'aimer Dieu. Amen. C'est d'aimer Dieu. Et si nous l'aimons ce matin, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Et pour y arriver, eh bien, il ne nous reste qu'à mettre notre orgueil de côté. Et les petits-enfants, parce que si les petits-enfants peuvent aimer Dieu, tout comme ceux qui font partie de l'élite intellectuelle de notre société peuvent aimer Dieu, eh bien, tout le monde peut aimer Dieu, qui que ce soit. C'est uniquement une question d'orgueil qui nous empêche d'accepter le Seigneur. C'est uniquement ça. Il n'y en a pas d'autre. Il y a des gens qui sont super religieux, qui s'accrochent à leur religion et par orgueil ne quitteront pas cette religion pour accepter le Seigneur. Il y en a qui préfèrent travailler dans d'autres choses plutôt qui préfèrent ne pas renoncer à leur péché plutôt que d'accepter le Seigneur Jésus. Mais c'est toujours une question d'orgueil. Les Écritures sont assez profondes pour que les savants de ce monde puissent nager dedans et ne jamais toucher le fond. Et en même temps, elles sont suffisamment peu profondes pour qu'un petit enfant puisse venir y boire sans craindre de s'y noyer. Certains disent que si vous êtes vraiment un intellectuel, vous n'avez pas besoin de croire en Dieu. Eh bien, le psaume 19 traite de ce sujet. Et j'aimerais que nous regardions les 3 façons que Dieu utilise pour vous parler, pour parler à l'homme, afin que vous puissiez le connaître. Prions. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous plongeons nos regards dans ta parole ce matin. Ta parole, Seigneur, qui est parfaite parce que toi, tu es parfait. Ta parole, Seigneur, qui est vérité parce que, Seigneur, il n'y a pas de mensonge en toi. Tu es vérité. Ta parole aussi, Seigneur, qui est vivante parce que tu es l'auteur de la vie et parce que tu es celui, Seigneur, qui est le Dieu des vivants et non pas celui des morts. Seigneur, merci encore une fois de nous permettre dans ce pays qui est la Belgique, de pouvoir plonger nos regards comme nous le voulons, dans cette sainte parole, dans tes Écritures, qui pourtant, Seigneur, dans d'autres pays, certains en sont privés et n'en ont jamais vu le couvercle. Seigneur, que nous puissions réaliser jusqu'à quel point nous sommes des privilégiés de pouvoir toucher, regarder au nombre de versions qu'il y a sur le marché. Seigneur, que nous puissions te rendre grâce pour cette liberté que nous avons, Seigneur, parce que c'est une grâce. Bénis ta parole, que ton Saint-Esprit nous éclaire, nous enseigne ce matin, nous fortifie, et qu'il puisse, Seigneur, nous amener à réaliser combien ta parole, Seigneur, elle est merveilleuse, elle est extraordinaire, et combien elle est une source de vie, de paix, de bonheur pour tous ceux et celles qui prennent la décision d'y obéir et de s'y soumettre. Et c'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu parle, la première façon, j'ai dit trois façons que Dieu nous parle. La première façon que Dieu nous parle, eh bien, c'est à travers les cieux. Les versets 2 à 7. On va lire les versets 2 à 7. Hein. C'est ce que nous appelons la parole de Dieu confirmée. Et c'est ce qu'on retrouve dans les versets 2 à 7. Alors, les cieux proclament la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Je vais la lire en français courant, après ça, on la lira. On va la voir tout au long du message. On va la voir en la Louis II. Les cieux proclament la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Le jour en instruit un autre. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Pardon. Leur accent va aux extrémités du monde, où Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Frères et sœurs, si vous regardez au-dessus de votre tête, les cieux ne font que confirmer que Dieu existe. Vous pouvez donc savoir que Dieu existe de manière rationnelle, c'est-à-dire en utilisant votre intelligence. Il est écrit que vous n'avez aucune excuse, que je n'ai aucune excuse de ne pas croire en Dieu. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est clair. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance divine et sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient dans les œuvres qu'il a faites. C'est là que les hommes peuvent les connaître, de sorte qu'ils sont sans excuse, et c'est l'apôtre Paul qui dit dans Romains, chapitre 1. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, que 90% de tous les astronomes croient en Dieu? 90%. Pourquoi? Parce que les cieux racontent la gloire de Dieu, et la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Nous, on regarde à l'œil nu l'univers. Mais quand un astronome, à travers le télescope Hubble, à travers tous les instruments qu'ils ont aujourd'hui, voit l'univers, il ne peut que faire que tomber à genoux et reconnaître qu'il y a un créateur derrière tout le système dans lequel on vit. Il peut faire autrement. Nous, on voit la Lune avec un télescope extraordinaire. T'as presque l'impression d'avoir les deux pieds sur la Lune. Hein? Ils sont capables de sonder toutes les planètes, les astres aujourd'hui. Et on a presque l'impression, avec ce qu'on a de perfectionné comme instrument, on a presque l'impression d'avoir les pieds sur ces planètes et sur ces astres. Et 90% de tous les astronomes qui travaillent aujourd'hui, eh bien, croient que Dieu existe. On estime qu'il n'y a eu que 50 philosophes de renom qui ont vécu depuis que l'homme existe. Pardon. On croit qu'il y a plus ou moins 54 philosophes de renom qui ont existé. Alors, il y a eu beaucoup de philosophes dans le monde, mais avec des toutes sortes de philosophies qui sont tombées, mais on croit que 54 philosophes de renom, finalement, qui ont vécu depuis que l'homme existe. Il ne faut pas dire, donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a rien de bon dans la philosophie, mais parmi les 54, il y en a 14 qui ne croyaient pas en Dieu. Et parmi les 14 qui ne croyaient pas en Dieu, écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Tous détestaient leur père sans exception. Tous détestaient leur père sans exception. Nous pouvons en mentionner deux, Darwin et Nietzsche. Ils détestaient leur père dominateur à l'excès. Et parce qu'ils détestaient leur père et qu'ils associaient l'image du père avec celle de Dieu, ils avaient une aversion marquée concernant cette idée de Dieu. Je dois quand même vous dire que ce n'est pas un signe d'intelligence de ne pas croire en Dieu, parce que les cieux racontent non seulement la gloire de Dieu, mais sa grandeur, sa bonté et sa grâce. Voilà ce que nous appelons la parole confirmée de Dieu dans les cieux. Deuxième moyen par lequel Dieu se révèle, c'est la parole qui se trouve dans vos mains ce matin. C'est la parole de Dieu. Les versets 8 à 11. Regardez les versets 8 à 11. On va lire ensemble. Versets 8 à 11. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Verset 8 à Dieu, 8 à 11, la parole de Dieu qui se trouve dans votre main ce matin. Ces versets ne parlent pas de la parole de Dieu dans les cieux, elles parlent de la parole, ces versets parlent de la parole de Dieu que nous tenons dans nos mains ce matin. La Bible qui est la loi parfaite du Seigneur. Rendons grâce à Dieu, frères et sœurs, pour les saintes écritures que Dieu nous a données. Amen. Rendons grâce à Dieu. Ouais. Vous vous imaginez si on n'avait pas eu ça? Quelles sont les questions qu'on se poserait, nous, ce matin? Chacun de notre côté, parce qu'on ne serait même pas rassemblés ensemble. On dirait, y a-t-il quelque chose de l'autre côté? Est-ce qu'on ne se construirait pas des totems comme les Indiens d'Amérique pour adorer un Dieu inconnu? Comme ceux dans la parole aussi? On sera tous des idolâtres, finalement. Mais Dieu a décidé de se révéler à sa créature. C'est extraordinaire. Et il s'est dévoilé d'une manière incroyable. On ne se révèle même pas aux autres, nous, à des gens qu'on connaît bien, à des membres de notre famille. On ne se révèle pas comme Dieu s'est révélé à nous. Dieu ne nous fait aucune cachette. Il y a des choses qu'il a le droit de ne pas nous révéler pour que nous puissions continuer à persévérer dans la foi. Mais Dieu ne nous a rien caché. Il nous a simplement dit, écoute, je ne te cache rien. Mais pour que ta foi reste solide et que tu ne dépendes pas uniquement de ce que je vais te raconter, de ce qui t'attend après la mort, de ce que je suis en train de te préparer pour toi, je te demande de marcher par la foi. Ouais. Mais Dieu ne nous décevra pas. Et Dieu n'était pas obligé de nous révéler tout ça. Il aurait pu nous donner qu'un seul livre parmi les 66. Mais Dieu a décidé de se révéler à chacun de nous. C'est extraordinaire d'avoir un Dieu comme ça. La Bible n'est pas le livre du mois, elle est le livre de toutes les époques. La Bible, c'est le livre qui surpasse tous les livres. Elle a permis d'arracher à la pauvreté et au désespoir une foule de gens dans le monde entier. Elle s'adresse au cœur de tous les hommes sans exception. Elle a été appréciée et rejetée par plusieurs, mais elle a béni la vie de millions de personnes qui ont bien voulu accepter son enseignement plus que tous les autres livres mis ensemble. Rendons grâce à Dieu pour la Bible, frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu. Je ne vous demande pas de l'embrasser avant de la lire, mais qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour le trésor qu'il nous a donné. Le psalmiste le dit à la fin, hein? Plus attirante que l'or, plus attirante qu'une quantité de métal précieux. Rendons grâce à Dieu pour ce livre. Les empereurs ont décrété son extermination, les athées, comme celle que je vous ai nommée tantôt, l'ont discrédité. Les agnostiques sourient lorsqu'ils entendent parler de la Bible. Les bonnardistes et les libéraux continuent à diluer son contenu. Les matérialistes l'ignorent. Les radicaux l'ont tordu et l'ont changé. Et les sectes l'ont pollué. Mes chers amis, la Bible est toujours là parce qu'elle est la parole de Dieu. Amen. 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 Bon, je vous ai déjà dit dans le passé que mon dermatologue, il m'avait demandé ce que je faisais dans la vie. J'avais dit que j'étais pasteur. Ah, et puis, il m'avait dit qu'il était athée. Et là, il va quitter la citadelle parce qu'il m'a dit pour toutes sortes de contraintes. Donc, il va s'installer dans un bureau privé et il doit m'opérer, m'enlever un petit bazou ici derrière l'oreille mardi matin. Et il m'a dit, viens avec moi, on va faire ton inscription parce qu'il part finalement cette semaine. Et je l'ai entendu dire, lui, je veux le revoir. Et à chaque fois que je rencontre mon dermato, à chaque fois, je lui dis que Dieu te bénisse. Et la dernière fois que je l'ai rencontré, c'est lui qui m'a dit que Dieu te bénisse. Et je suis persuadé que Dieu est en train de creuser sa carapace. Et s'il veut me revoir dans le privé, parce que c'était l'occasion pour lui de dire, je ne veux plus te voir, écoute, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre à la citadelle. Mais qu'il dit à la personne qui prenait les rendez-vous, lui, je veux le revoir après. Eh bien, je suis convaincu que Dieu travaille son cœur. Et frères et sœurs, on sous-estime la puissance de la parole. On sous-estime la puissance de la parole. Une petite parole. Ça peut torturer quelqu'un jour et nuit jusqu'à temps qu'il vienne devant le Seigneur et qu'il dise, Seigneur, donne-moi la solution, réponds à ma prière. Et je suis persuadé que chacun ici, chacun qui a accepté le Seigneur, qui sont nés de nouveau, vous pouvez rendre témoignage comment Dieu, les moyens que Dieu a pris pour vous amener finalement à vous courber, à plier les chines, à tomber à genoux et à dire, Seigneur, maintenant je lâche prise, Seigneur, je veux que toi maintenant, tu sois mon Dieu, que tu sois vraiment mon Sauveur et mon Seigneur. Et Dieu a des moyens insoupçonnés, frères et sœurs. Quand je regarde Valentin et Émilie, il y a 2-3 ans, hein, je n'ai pas cher de leur peau, je regarde aujourd'hui, Ils sont en avant, ils rendent témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils rendent témoignage des transformations que Dieu a opérées. Oui, je trouve ça merveilleux. On a encore un Dieu qui fait des miracles aujourd'hui. Je peux vous dire ça. Un Dieu qui fait des miracles encore aujourd'hui. Et un Dieu qui appelle encore des gens à le servir. Alors, nous sommes les enfants de Dieu, ce sont des disciples, et les disciples, ce sont des serviteurs. Ouais. Et l'Église, là, c'est le centre commercial, entre guillemets, que Dieu place des gens pour le servir, bénévolement. Pour la plupart, bénévolement. Ouais. Dieu vous appelle, vous avez un appel sur votre vie. Je ne connais pas votre appel, mais vous avez un appel. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes sans excuse de ne pas répondre à l'appel parce que vous avez reçu un don spirituel qui doit être mis au service de l'Église locale. Voilà pourquoi on dit que tous ceux qui sont membres de l'Église locale, tous ceux qui sont nés de nouveau, ont un appel sur leur vie. Cet appel peut être à l'extérieur. Cet appel, en principe, elle est à l'intérieur, d'abord à l'intérieur, parce que c'est à l'intérieur qu'on apprend à servir le Seigneur pour après être utilisé par Dieu à l'extérieur. Mais Dieu appelle tous ceux qui sont nés de nouveau à le servir dans l'Église locale d'abord, parce que vous avez reçu un don spirituel. Amen. Et Paul l'a dit, pour tous ceux qui sont baptisés, ce don spirituel se manifeste après. Donc l'Église locale va confirmer. Et pourquoi il va confirmer après le baptême? Parce que vous rendez témoignage que vous vous êtes maintenant investi dans l'armée du Seigneur et que vous voulez le servir. Et là, vous allez en le servant, les gens vont dire dans l'Église, à toi, tu as vraiment... ce don. Ah, toi, tu as vraiment reçu ça. Toi, tu as vraiment reçu. C'est pour ça que le don spirituel se manifeste après le baptême, après le témoignage qu'on a rendu. Parce qu'on sert dans l'Église et les membres commencent à voir, hey, lui a vraiment ça. Ah oui, lui, c'est vraiment ça que Dieu. C'est vraiment ça à quoi Dieu l'appelle. Hein. On a tous un appel sur nos vies. Amen. Il s'agit de dire, Seigneur, je te sers. Je ne sais pas de dire au Seigneur, mais je vais te servir quand tu m'auras montré mon appel. C'est d'abord te servir, Seigneur, et puis confirme à travers les frères et sœurs. Quel est l'appel qui est sur ma vie? Malgré les nombres de personnes qui ont tenu des propos négatifs à son égard, malgré les nombreuses tentatives pour déformer son contenu, malgré toutes ces choses, rendons grâce à Dieu pour ce livre qu'est la Bible. J'aimerais voir avec vous rapidement les vertus, la vertu des Écritures. Regardez au verset 8. Le psalmiste mentionne ses vertus. Dans un premier temps, il dit au verset 8, « La loi du Seigneur, elle est parfaite. La loi du Seigneur, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. » Elle restaure l'âme, frères et sœurs. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La loi de l'Éternel, elle est parfaite. Est-ce qu'elle restaure l'âme? Elle restaure l'âme. Est-ce que vous saisissez ce qui est écrit ici? Elle est parfaite. Cela signifie qu'il n'y a rien à y ajouter. Vous ne pouvez pas y ajouter un seul mot, ni enlever un seul mot. Elle est complète. Je connais quelqu'un là, qui a fréquenté l'Église, qui a fréquenté une Église où j'étais pasteur. Lui, il ne lisait pas sa Bible, il voulait savoir, il voulait connaître l'Apocalypse de Pierre. Qu'est-ce qu'il y avait décrit dans l'Apocalypse de Pierre? Alors que ce n'est même pas un livre qui est accepté par aucune Église, c'est des livres qui ont été écrits par des illuminés. Et lui, il voulait savoir, il voulait découvrir toutes les vérités qu'il y avait dans l'Apocalypse de Pierre. Il aurait été mieux de regarder l'Apocalypse de Jean. Hein? Ouais. Vous voyez, il y a des gens qui ils veulent rester ignorants parce que Ils n'ont pas encore compris que la parole de Dieu, là, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. La parole de Dieu, elle est parfaite. Va pas chercher d'autres livres à côté pour savoir, rajoute-en pas. Elle est parfaite. Et le but, c'est de restaurer l'âme. Combien de fois avant de venir au Seigneur, on se sent, comment on se sent, hein? On est bourré d'orgueil d'abord, hein? On n'a pas de défaut. Hein? C'est vrai, hein? Même en tant que chrétien, si je vous donnais des feuilles, tiens, ça me tente, si je vous donnais des feuilles ce matin, là, je vous disais, écrivez-moi trois qualités que vous avez. C'est pas long que les crayons, hein? Là, je vous dirai après, écrivez-moi trois défauts. Prends du temps, hein? Et dans une entrevue d'emploi, il y a beaucoup de candidats qui bloquent là, hein? Ils sont incapables de trouver un seul défaut dans leur vie, hein? Oui. Je portais exagéré. Une grande langue. Je suis colérique. Je ne parle pas des chrétiens, parce que la colère, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Hein. Ouais. Je ne me maîtrise pas. Hein, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Il faut faire attention de marquer nos défauts. Hein. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Eh bien, la parole de Dieu, elle restaure l'âme. Elle nous montre vraiment ce qu'on est. Quoi. Elle nous montre vraiment où est notre cancer dans notre âme. Ce qui nous ronge, ce qui nous fait du mal. Ce qui est en train de nous tuer pour l'éternité. Ce qui déplaît à Dieu. Et Dieu veut restaurer notre âme. Il veut le restaurer à travers sa parole. C'est ça qui est magnifique, frères et sœurs. Ce verset, le verset 8, parle de l'inspiration verbale de la Bible. Lorsque nous parlons de l'inspiration de la Bible, nous voulons dire qu'elle est entièrement inspirée de la Genèse à l'Apocalypse. Lorsque nous parlons de l'inspiration verbale de la Bible, nous voulons dire que chaque mot a été inspiré, chaque mot est inspiré. Jésus dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dieu nous a donné sa parole et je crois que chaque phrase, chaque syllabe, chaque iota, chacun des mots par le Saint-Esprit le fut dans un but bien précis. Voilà pourquoi le psalmiste dit ici, « La loi du Seigneur, elle est parfaite, elle restaure l'âme, elle fait passer l'homme des ténèbres à la lumière. » Il y a une telle puissance, frères et sœurs, dans ce livre. Et dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Et Dieu nous l'a donné pour nous enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes, former une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit préparé et équipé pour toute œuvre bonne. Et les œuvres bonnes, ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, frères et sœurs. Amen. Dieu a préparé des œuvres d'avance. Il y a des œuvres pour vous, frères et sœurs, à travers ces œuvres qu'il a préparées pour vous, il veut se glorifier. C'est extraordinaire, quoi. Et en se glorifiant, vous allez être témoin des miracles que Dieu fait dans vos vies et vous allez le glorifier à votre tour aussi. Oui, c'est magnifique. Amen. Oui, aïe, aïe. Hein? Oui. Conviction. Oui. J'espère que vous êtes conviction, hein? C'est une conviction dans votre cœur. Parce que la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est la parole. Voilà. OK. Il ajoute au verset 8, le témoignage de l'Éternel, regardez la fin du verset 8, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Le mot véritable sous-entend l'idée d'un fondement. Cela signifie que lorsque vous vous appuyez sur la parole de Dieu, vous ne marchez pas sur des coquilles d'œufs ou sur de la gelée, vous marchez sur un fondement solide, vous marchez sur un rocher qui est digne de confiance. Frères et sœurs, cette parole, elle est tellement digne de confiance. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'elle rend sage les ignorants. Vous savez quels sont ceux qui n'acceptent pas le Seigneur? C'est ceux qui pensent de tout connaître. Hein? Et Dieu ne dit pas qu'il rend sage ceux qui connaissent tout. Hein? Dieu rend sage ceux qui sont ignorants. Et pour se dire être capable d'avouer qu'on est des ignorants, hein, ça prend de l'humilité, il faut mettre notre orgueil de côté. C'est la seule façon de se présenter à la croix. Hein? Dieu résiste aux orgueilleux et le mot « résister » dans la parole de Dieu, dans le livre dans Hébreux, hein, Dieu combat l'orgueilleux. Le verbe hébreu, c'est pas Dieu résiste, mais Dieu combat, c'est-à-dire résister, oui, mais Dieu combat l'orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Bienvenue aux ignorants dans le royaume de Dieu. Bienvenue aux ignorants. Moi, j'étais un grand ignorant. Bienvenue aux ignorants dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Et c'est pour ça que la croix, pour certains, elle est une folie. Et pour que d'autres, elle est une source de salut. Elle est une source de salut pour les ignorants. Mais pour ceux qui se croient sages, elle est une folie. Ouais. Bienvenue aux ignorants dans le royaume de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir un quotient intellectuel très élevé pour connaître la parole de Dieu. Et une des choses que j'aime concernant la Bible, c'est que Dieu la prend et la rend disponible pour tous, sans exception. J'ai visité des gens qui pouvaient difficilement lire, mais qui aimaient ce livre. Ils avaient un nombre incroyable de versets qui étaient soulignés dans leur Bible. Et j'écoutais ces gens m'expliquer les Écritures et je me disais en moi-même, c'est incroyable la connaissance que ces gens ont de la parole de Dieu et de la personne de Jésus-Christ. Pourtant, en vue humaine, c'était des gens qui paraissaient tellement insignifiants. Mais quelle sagesse, quelle connaissance de la parole ils avaient. La loi de l'Éternel est parfaite, elle rend sage l'ignorant. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Le chemin du Seigneur est tellement clair que le prophète Isaïe a dit, dans Isaïe chapitre 35, verset 8, « Que ceux qui suivront ce chemin, y compris les insensés, ne pourront s'y égarer. » Cela signifie qu'un inconnu, un pur étranger, peut trouver son chemin en empruntant la route de la Bible. Nous lisons ensuite au verset 9. Regardez le verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Et le mot « droite » ici signifie qu'elles ne vous induisent jamais en erreur, qu'elles ne vous font jamais prendre un raccourci, un autre moyen pour essayer de vous amener au même endroit. Ces ordonnances, elles sont justes. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit « Fais ceci », il vaut mieux le faire. Et si vous le faites, vous allez découvrir que c'est là le secret de la joie. Si vous n'obéissez pas à la parole ce matin, un seul manquement à la parole dans votre vie, un seul péché caché dans votre vie, vous ne pouvez pas avoir la joie du Seigneur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Et si vous n'avez pas votre joie dans le Seigneur, en tant que tous les êtres humains, comme tous les êtres humains, vous allez essayer de trouver une joie ailleurs, à l'extérieur, dans le monde. Et cette joie, le monde ne peut pas vous la donner, cette joie. Ouais. La Bible, c'est pas moi qui le dis encore, hein? Le verset ici. Hein? Il y a une telle joie, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Il y a une telle joie à obéir à la parole de Dieu, ça a toujours été pour les chrétiens qui n'ont pas au sérieux, un oreiller sur lequel ils pouvaient poser leur tête, poser leur âme, après toutes ces années passées dans le monde, où ils avaient vécu une vie dissolue. En se reposant sur les Écritures, ils y ont trouvé la joie et la consolation. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Dans ma vie de prière, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Hein? Ouais. J'aurais consacré beaucoup plus de temps à la vie de prière. Bon, on a quand même beaucoup d'activités et beaucoup de choses qui nous empêchent souvent de se concentrer pour prier. Mais il y a une chose sûre. Hein? Le soir, avant de me coucher, là, moi, je prends un temps avec le Seigneur. Parce que je me dis, Seigneur, si je ne suis pas droit dans mes bottes, c'est quelque chose que j'ai fait aujourd'hui qui t'a déplu. Là. Mets-la en lumière. Hein? Parce que si tu viens me chercher durant la nuit, là, moi, je veux décoller. Hein? Moi, je veux décoller. Hein? Je ne veux pas rester dans mon cercueil, moi, puis aller vers le bas. Hein? Moi, je veux monter en haut. Hein? Parce qu'il y a juste lui qui a la puissance de nous faire grimper. Hein? Autrement qu'une fusée peut envoyer un homme sur la lune. Hein? Ouais. Ouais. Frères et sœurs, et vous savez pourquoi la parole, elle restaure? Parce qu'elle nous permet justement de ne jamais oublier de nous examiner jour après jour. C'est vraiment important. Elle nous permet, elle nous parle de repentance, frères et sœurs. Je connais malheureusement, avec tristesse, des gens qui se disent chrétiens, qui baignent dans le péché. Et à chaque fois qu'ils pêchent, Seigneur, je te demande pardon, mais aucun esprit de repentance, rien. Et qui sont convaincus d'aller au ciel. Hein. Mais la première épître de Jean est écrite pour ces gens-là. Hein. Jean écrit sa première épître, et sa première Bible pour les gnostiques de son époque, hein, sa première épître. Hein. Des gens qui vivaient par la grâce seulement. Hein. On peut pécher, on est sous la grâce. Hein. Ouais. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Hein? Ouais. Ouais. Et puis il continue au verset 9 en disant que les commandements de l'Éternel sont purs, il éclaire les yeux. Et le mot pur ici, il signifie sans mélange, sans aucun alliage. Cela signifie que vous n'avez pas besoin à vous inquiéter pour savoir si telle partie est bonne et si telle autre partie de la Bible n'est pas bonne. Tout est bon à prendre parce que la parole de Dieu, elle est pure. J'ai lu récemment qu'il y avait plus de 6000 promesses dans la parole de Dieu et qu'aucune d'entre elles n'a jamais été ou ne sera jamais brisée. Elles sont oui et amen dans le Seigneur Jésus, frères et sœurs. Amen. Et le psalmiste dit au verset 10 ici, « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. » Cela signifie, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de germe de corruption dans la parole. Elle n'a pas de défaut par conséquent. L'apôtre Pierre dit dans sa première épître que cette Bible qui est la parole vivante et permanente de Dieu est une semence incorruptible. Les Écritures ne sont jamais démodées ni dépassées. Elles s'appliquent en tout temps et dans n'importe quelle circonstance, et ce, peu importe l'époque, et vous n'avez pas besoin de la réviser. Prenez d'autres livres parmi les plus anciens connus et voyez comment ces vieux livres peuvent s'appliquer au 21e siècle. Impossible. Je prêche ce matin devant des gens qui viennent de toutes sortes d'horizons, qui travaillent dans différents secteurs. Et pourtant, ce livre s'adresse à vous tous sans exception. Pardon. Je prêche à une époque où l'informatique domine, où les voyages spatiaux sont d'actualité, où la fibre optique prend de plus en plus d'expansion, sans oublier tout le reste. Et pourtant, la parole de Dieu est toujours d'actualité et continue à changer encore et encore les cœurs des gens qui le veulent bien. Et elle est là pour durer éternellement. N'est-ce pas rafraîchissant de savoir cela, frères et sœurs? N'est-ce pas rassurant de savoir que la parole de Dieu ne change pas, qu'elle est pure et qu'elle dure éternellement? Ouais. N'est-ce pas rafraîchissant? N'est-ce pas rassurant? Ouais. On a dit ça mercredi à l'étude biblique. Hein. On a un Dieu qui est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous vous imaginez, vous entendez la parole aujourd'hui. Vous êtes mort depuis 300 ans. Et là, Dieu dit, « Bon, je change tout ce que j'ai écrit là-dedans. Ça n'a pas d'allure, quoi. » Le monde est tellement sale, moi, je change tout. On est mort pour rien, hein? Vous imaginez si c'est insécure, ça? Mais la parole, elle ne change pas. Elle ne change pas. Ce qui a été écrit là-dedans depuis 4000 ans, à partir de Moïse, avec Moïse, ça ne change pas. Alors, on est assis vraiment sur quelque chose de solide. Et Dieu, ce n'est pas un sentimental, hein? Non. Dieu, c'est quelqu'un de moral. C'est un être moral, Dieu. Vous êtes des êtres moraux. Et Dieu, lui, n'est pas tenté par le mal. Dieu ne pense pas mal. Dieu ne parle pas mal. Et Dieu veut que notre bien, frères et sœurs, à travers toutes sortes de moyens, il veut simplement nous amener à rassembler à la personne de Jésus-Christ. Regardez la valeur des Écritures. Après avoir parlé des vertus des Écritures, ici, le psalmiste va maintenant parler de la valeur des Écritures. Rapidement, hein? Elles ont une valeur inestimable. Regardez ce qui est écrit au verset 11. Elles sont plus précieuses que l'or, beaucoup d'or fin. Plus nous nous appliquons à lire et à méditer la parole de Dieu, et plus nous sommes en mesure d'évaluer sa vraie valeur, qui est éternelle. Frères et sœurs, est-ce que vous prenez rendez-vous jour après jour? Vous trouvez du temps dans votre vie pour investir, non pas dans la valeur que l'or prend à chaque jour, mais est-ce que vous prenez du temps d'investir dans ce qui est inestimable comme valeur dans la parole de Dieu? Quel est le temps que vous y consacrez? Pour le vrai chrétien, la parole de Dieu est précieuse. En tout cas, elle l'est pour moi. Il m'arrive de me dire à moi-même, Jacques, à quoi ressemblerait ta vie si tu ne connaissais pas la Bible? Je ne peux même pas imaginer quelle serait ma vie sans la parole de Dieu. Et je ne sais même pas si je suis encore en vie aujourd'hui, si le Seigneur ne s'était pas révélé à moi il y a 33 ans. Combien la Bible, elle est précieuse, plus précieuse que tout l'or que ce monde peut nous offrir, frères et sœurs. Elle nous protège. Regardez le verset 12. Non seulement les Écritures ont une valeur inestimable, mais elles nous protègent. Moi qui suis ton serviteur, j'en reçois aussi instruction, ou dans le français courant, c'est écrit, où j'y trouve un avertissement. Frères et sœurs, le meilleur moyen d'éviter de commettre des bêtises ou de ne pas se mettre les pieds dans les plats, c'est de prendre au sérieux ce que disent les Écritures. Il vaut mieux prévenir que de guérir, n'est-ce pas? Vous connaissez ce dicton, hein? Il vaut mieux prévenir que guérir. La parole de Dieu vous épargnera de vivre beaucoup de souffrances et vous évitera de tomber dans certains pièges si vous plongez vos regards dans cette parole jour après jour. Regardez, elle nous apporte un avantage certain, verset 11. Non seulement il est écrit au verset 11 que les Écritures sont précieuses, non seulement au début du verset 12, il est écrit qu'elles nous protègent. Regardez la fin du verset 12. Pour qui les observe, la récompense est grande. Pour celui qui ne l'observe pas, la déception sera aussi grande. J'ai dit au début qu'il y avait la parole de Dieu dans les cieux, qu'il y avait la parole de Dieu qui confirmait que Dieu existe, que nous pouvons la tenir dans nos mains, mais nous avons besoin de plus que cela, nous avons besoin que cette parole elle vienne se loger dans notre cœur. Regardez de quelle façon se terminent les versets 13 à 15. « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Vous remarquez ce qui est écrit au verset 15, « Les sentiments de mon cœur, c'est-à-dire la parole qui est dans mon cœur. » Et cela, chers amis, c'est de cette façon que vous connaissez le Seigneur personnellement, si vous laissez la parole venir se loger dans votre cœur. Regardez, ce n'est pas suffisant d'avoir la parole de Dieu dans les cieux. Ce n'est pas suffisant d'avoir la parole de Dieu, de tenir la parole de Dieu dans nos mains. Mais le Dieu qui a créé les cieux, qui a créé la Bible, a besoin de venir habiter dans nos cœurs. Alors, on ne rentrera pas dans tout ça ce matin parce que le temps passe. Mais d'abord, il doit avoir une conviction de cœur. Verset 13, « Qui connaît ses égarements? » Qui connaît ses égarements? Chers amis, avant que vous puissiez connaître Dieu, vous devez ouvrir votre cœur et laisser entrer la parole de Dieu. Elle connaît vos égarements. Voilà pourquoi elle connaît vos égarements. Vous vous souvenez de Daniel Julien? Vous vous souvenez de Daniel Julien qui était venu nous voir ici il y a quelques années? Daniel Julien, c'est quelqu'un que le Seigneur a accepté. Hein? Il a accepté le Seigneur. C'est un homosexuel. C'est pas évident, hein, un homosexuel grand dans une église, hein, qui dit que j'ai accepté le Seigneur. Et pourtant, Daniel Julien, il n'a pas eu besoin d'aller, de suivre des cours, pour savoir que c'était péché. Hein? La première chose qu'on lui a dit, on ne l'a pas jugé, on lui a dit, tu es un enfant du Seigneur, maintenant commence à lire la parole. Et bizarrement, il a commencé à lire l'Ancien Testament, et il s'est aperçu que l'homosexualité, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'était fini, hein? Délivré. Hein? Il a confessé son péché, il était délivré. Hein? Moi, il m'a raconté ce qu'il faisait. Hein? C'est un gars qui s'est prostitué hein? dans l'homosexualité. Hein? C'est un gars, on ne peut pas penser, on ne peut pas imaginer ce qu'il a vécu dans ce monde-là. Hein? Et Dieu l'a délivré, quoi. Et je me souviens, il a témoigné ça ici, en plus. Hein? Ouais, ouais, ouais. Et on est encore avec le Dieu des miracles, quoi. Ouais. Daniel Julien, c'était un perverti, c'était un corrompu au niveau du sexe. Hein? Et il a lu dans la parole, Dieu l'a instruit dans la parole, quoi. Si tu es vraiment mon enfant, eh bien, dans le nom de Jésus, tu as la puissance pour être délivré, quoi. Et il a été délivré. Et ce matin, si vous êtes un esclave d'un péché quelconque, Dieu a encore la puissance pour vous en délivrer, frères et sœurs. Parce que le péché d'homosexualité, là, c'est pas un péché facile à se débarrasser. Ouais. Ouais. Alors, si vous avez des petites miettes de péché qui traînent dans vos vies, là, Dieu a la puissance et qui vous accroche, qui vous empêche d'avoir cette relation, cette communion avec le Seigneur comme vous devriez l'avoir, demandez au Seigneur qu'il vous en délivre. Dieu va vous en délivrer. Amen. Non seulement doit avoir une conviction de péché dans le cœur, mais le cœur doit être nettoyé. Regardez au verset 13. Pardonne ceux que j'ignore ou pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. La seule façon que vous pouvez savoir, c'est à travers la parole de Dieu. C'est la conviction qui vient de la parole. Ensuite vient le nettoyage. Et quel est l'agent que nous trouvons dans la parole de Dieu pour nous purifier? Quel est l'agent que nous trouvons dans la parole de Dieu pour nous purifier? Quelqu'un veut se lancer? Le sang de Jésus-Christ. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le contrôle du cœur, verset 14, « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. » Frères et sœurs, ça ne suffit pas d'être simplement purifié. On a besoin d'être supervisé afin d'éviter d'être trop sûr de nous et de succomber délibérément et volontairement dans le péché. Frères et sœurs, alors le matin, on doit prier. Le matin, en demandant à Dieu de nous garder tout au long de la journée. C'est important. C'est vraiment important. Et on a parlé de la prière il y a 2 semaines, hein? Et le sujet de la prière, on devrait revenir. On en a parlé mercredi soir aussi à l'étude biblique. Nous sommes dans une génération d'Église qui a besoin de dire la même chose que les apôtres ont dit à Jésus-Christ. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous comment prier, Seigneur. Ouais. Enseigne-nous comment prier. Et j'ai été béni jeudi soir à la réunion de prière. Parce que le Seigneur, il nous a enseigné à prier non seulement dans sa parole, il nous a enseigné à prier à travers les frères et sœurs qui étaient là, à la table, autour de la table. Enseigne-nous à prier à travers des jeunes chrétiens, à travers des vieux chrétiens. Dieu nous a enseigné comment prier à travers ses frères et sœurs en Christ. Et c'est ça la communion fraternelle. C'est ça s'instruire les uns les autres. Amen. C'est important. Et on était bénis. Hein? Dommage pour ceux qui nous ont reçus, on est partis tard, mais c'est une bénédiction, hein? Oui. C'est une bénédiction d'être ensemble, quoi. Et on doit rechercher ces choses-là. Voilà, alors on va arrêter là, mais j'aimerais terminer ce message par vous raconter une histoire vécue par un dénommé Nicolas Alexandre Drenki, je vais le prononcer juste une fois, qui était d'origine russe. Il était commandant dans l'armée russe lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il était dans les paracommandos. C'était un athée qui s'était laissé influencer par cette dame que je vous ai racontée au début. Et qui était très fier de lui parce qu'elle avait réussi à le convaincre de devenir athée. C'était un homme intelligent. On lui avait enseigné que Dieu n'existait pas et a détesté de toutes ses forces l'idée d'un Dieu. Les Allemands venaient d'envahir la Russie et Nicolas et les troupes qu'il commandait furent parachutés sur la ligne de front près d'un fleuve. La bataille faisait rage lorsqu'il ressentit une douleur dans sa jambe gauche. Il tendit la main et il vit que sa main était pleine de sang. Il savait qu'il avait été atteint par une balle et qu'il ne pourrait pas courir pour échapper aux Allemands qui, eux, arrivaient dans sa direction. On lui avait enseigné qu'il était préférable de se suicider plutôt que d'être capturé par l'ennemi. Il prit alors son fusil et le plaça sur sa tempe. Puis, instinctivement, sachant que c'était mal, il enleva le canon du fusil qui était appuyé sur sa tempe. Il se leva les mains le plus haut possible et il se rendit à l'ennemi. Nicolas fut placé avec 19 autres de ses compagnons qui avaient été capturés en même temps que lui dans un train. Qui les conduisait en Allemagne en tant que prisonnier de guerre. Les Russes vinrent et bombardèrent ce train, transportant à son bord leurs propres soldats. Mais Nicolas et ses compagnons réussirent à sortir vivants de ce bombardement. Lorsqu'ils arrivèrent en Allemagne, ils furent envoyés dans un camp de concentration où tout ce qu'on leur servait, c'était une soupe à base de gazon. Suite à ce régime de vie, des centaines de ses compagnons sont morts de faim dans ce camp. En 1945, la guerre prit fin. On informa Nicolas qu'il pouvait retourner en Russie. Mais Nicolas dit aux autorités qu'il ne voulait pas retourner dans son pays parce qu'il craignait qu'on ait appris qu'il s'était rendu à l'ennemi. Si c'était le cas, il savait qu'il aurait fini ses jours en Sibérie. « J'étais commandant, dit-il, je ne veux pas retourner en Russie. » Il lui dit, « Tu peux rester ici dans un camp pour personnes déplacées. » Un peu ce qu'on voit aujourd'hui, hein? Mais Nicolas était un homme intelligent et il s'était souvent demandé si Dieu existait ou pas. Il ne pouvait pas comprendre comment tout ce qu'il voyait pouvait avoir été le fruit du hasard, mais on lui avait enseigné que Dieu n'existait pas. Nicolas logeait dans des baraques où il faisait très froid. Et dans la baraque où il habitait avec d'autres gens, il y avait au milieu de la pièce un vieux poêle à bois. Un jour qu'il essayait de faire du feu, il s'aperçut que quelqu'un avait tellement coincé du papier dans la poêle que le feu s'éteignait immédiatement parce qu'il n'avait pas aucune source d'air pour l'alimenter. Il retira donc une certaine quantité de papier du poêle et comme il sortait ses vieux papiers, il se retrouva avec un traité biblique et certains papiers contenant des portions des Écritures. Il n'avait jamais lu la Bible avant ce jour-là. Il prit alors un papier. Il lut un verset dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et le texte disait que c'était Dieu qui frappait à la porte de son cœur. Puis il lut un autre passage des Écritures, c'était dans Matthieu 11, 28. Il était écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On n'aurait jamais pensé voir un ancien parachutiste russe en train de lire la parole de Dieu. Il fit alors quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il a commencé à prier en disant, « Dieu, si tu existes vraiment, si c'est ta parole, si tu te tiens vraiment à la porte de mon cœur, si c'est toi qui frappes, si tu veux vraiment me donner du repos, parle-moi. » Il dit qu'il a senti Dieu vraiment être envahi par la présence de Dieu. Il dit que Dieu l'envahit de sa présence comme pour lui dire, « Mon enfant, je suis ici. » Nicolas dit, « On m'avait appris à ne pas faire confiance à personne. Je n'ai pas pleuré alors que j'étais encore un enfant lorsque ma mère est morte. » Il dit, « Je n'ai pas pleuré sur le champ de bataille lorsque les balles sifflaient autour de moi. » Il dit, « Je n'ai pas pleuré lorsque j'ai reçu cette balle dans ma jambe. » Il dit, « Je n'ai pas pleuré lorsque j'étais dans ce camp de concentration, alors que je voyais des gens mourir de faim autour de moi, en train de manger leur soupe faite avec du gazon. » Il dit, « Je n'ai pas pleuré en tant que personne déplacée et isolée. » Et il dit, « Et pourtant, pour la première fois de ma vie, j'ai senti la présence de Dieu. Et si mes souvenirs sont bons, pour la première fois de ma vie, des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je savais que Dieu était là, qu'il m'aimait, mais je ne savais pas quoi faire. Il ajoute, dans sa providence, Dieu m'a conduit vers un ancien soldat russe qui avait accepté Jésus. Il me donna une Bible et il me conduisit dans une petite église baptiste. À cet endroit, on me parla de Jésus et je fus sauvé de mes péchés. Par la suite, lui, cet ancien parachutiste russe, se retrouva enseigné pendant des années dans une des instituts baptistes dans le sud des États-Unis. Chers amis, c'est ainsi que Dieu fonctionne. Dans cette histoire, vous avez les trois moyens que Dieu utilise pour nous parler. Premièrement, Nicolas avait vu la parole de Dieu en regardant les cieux, en contemplant le ciel. Puis, par la grâce de Dieu, il a tenu la parole de Dieu dans ses mains en sortant ses papiers. Cette parole qui est la loi de l'Éternel et qui est parfaite pour convertir les âmes. Enfin, il a reçu la parole de Dieu dans son cœur lorsqu'il a reçu Jésus-Christ dans son cœur. Chers amis, les athées peuvent dire ce qu'ils veulent, mais vous pouvez connaître Dieu personnellement, que vous soyez intellectuel ou pas. Amen. Amen. On vous invite à vous lever. On va chanter un cantique.